RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules. C'est le retour des grandes gueules en direct à la radio RMC et à la télé RMC Story, le canal 23 de la TNT. En plus, on profite du grand plateau de nos studios, plateau immense des émissions spéciales. Ça nous rajeunit parce que c'est là que les grandes gueules avaient commencé ici en public quand on est arrivé à la télé. Mais je salue mon camarade Olivier Truchot qui profite encore de quelques jours de vacances. Anaïs Sainz aussi, ils reviendront dans 15 jours. Les GG qui sont dispo, qui sont là aujourd'hui. Nous sommes avec Flora Guebali, l'entrepreneur de la transition écologique. Bonjour Flora.
Alors bonjour à tous et bonjour à Francky, un fan des GG, barista à la SNCF, absolument adorable, qui m'avait passé un super trajet de train et qui était tellement fan des GG qu'il travaille l'après-midi, mais le matin il se réveille pour regarder les GG. Je lui ai dit mais vous devriez dormir, c'est quand même plus sympa. Et il m'a dit non, les GG c'est trop bien, donc je regarde.
Les GG c'est la life. Bonjour Charles Consigny.
Bonjour à tous.
L'avocat qui est des nôtres, très actif sur les réseaux sociaux, l'ami Charles. Et puis Emmanuel Devilliers est avec nous aussi, l'entrepreneur.
Ave grand Marshall, et bonjour à tous. Alors, l'été dans le Nord, ce sont les brocantes. Les brocantes, ce milieu formidable. Et en chinant, le 14 juillet à Montreuil-sur-Mer, cette magnifique sous-préfecture du Pas-de-Calais, je suis tombé sur un objet. Je me suis dit, ça, c'est un objet qui est obligatoirement pour Alain Marchal.
Ah, et tu me l'as rapporté très gentiment, alors.
Qu'est-ce que c'est? Alors, tu vas nous en dire plus.
Avec grand Marchal.
Je croyais que tu parlais de ta chemise que tu avais chinée dans une brocante. Parce qu'elle fait très vintage.
Attendez,
c'est un compliment. Le vintage,
c'est une paire de rideaux.
C'est bon pour la planète et bon pour le porte-monnaie.
C'est vrai, dans les
brocantes. Moi, j'encourage.
C'était les rideaux de la cuisine.
Alain va nous en dire plus.
Alors, attendez, parce que Emmanuel m'a donc apporté ce cadeau. Je fais très attention.
Oui, c'est relativement fragile.
Il est dans du papier bulle. Alors, beaucoup de papier bulle. J'ouvre.
Et c'est un sextoy. Ah non, pardon.
Non, c'est un teckel dans lequel on peut servir l'apéritif, oui, on peut mettre des cacahuètes. C'est un teckel. Tout le monde sait que j'ai un teckel. Je participe à la marche des teckels.
Alors, avec un cristal d'une vieille maison de Lorraine, bien célèbre.
Wow. Et ben je te remercie.
Nous sommes à mi-chemin entre l'esthétisme et l'humour.
Et ben je prends l'humour, mais je peux te dire que je servirai l'apéritif des cacahuètes dedans. C'est promis, merci mon cher Emmanuel. C'est parti pour 3 heures de grande gueule. Vous allez pouvoir bien sûr réagir au 32-16. On vous attend. On vous attend pour discuter de pas mal de choses aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a de la politique, il y a des faits de société. Il y a l'ancien ministre de la Santé, Yannick Noder, qui veut taxer l'industrie du tabac pour lutter contre les incendies. On a les trottinettes, casques et gilets fluo qui deviennent obligatoires à Paris en petite couronne et le gouvernement qui, pourquoi pas, le ministère de l'Intérieur, réfléchit à étendre la mesure. On a les dossiers fantômes en ce qui concerne les violences sexuelles, c'est les accusations de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Je vous propose qu'on commence par parler de la bataille de la gratuité des fournitures scolaires. De quoi s'agit-il? Tandis que Saint-Denis a annoncé la distribution gratuite de fournitures scolaires pour la rentrée 2026, à Nice, le maire, Éric Ciotti, a dit qu'il ne renouvellerait pas, lui, l'opération qui avait été lancée en 2025, qui consistait à distribuer un kit scolaire gratuit aux 22 000 élèves d'une cité, la cité des Aiglons. Alors, la nouvelle municipalité dit que ça a coûté 440 000 euros. Ça fait 20 euros par trousseau, logistique et livraison comprises. Or, Éric Ciotti s'est lancé dans une opération d'économie et dit les fournitures proposées ne répondaient pas pleinement aux attentes réelles des villes. Du côté de l'opposition, notamment de la gauche niçoise, on dit voilà la réalité de l'extrême droite, elle arrive aux responsabilités, et ben elle fait payer les classes populaires et les familles. C'est ce qu'on dit aussi du côté de Saint-Denis. Donc ça, d'un coup, ça refait parler de qui doit payer les fournitures scolaires. Est-ce que les fournitures scolaires, c'est les familles, elles ont un budget, vous savez qu'il y a l'allocation de rentrée scolaire aussi, et elles se débrouillent avec, ou est-ce que c'est aux municipalités de donner un coup de pouce? 32-16 pour le dire aux grandes gueules, Emmanuel.
Ouais, il faut évidemment serrer la vis, parce qu'on ne peut plus tout payer, repayer, surpayer. Chacun sait bien, dans l'iconographie populaire, que souvent les budgets de fournitures scolaires servaient à acheter un écran plat, Et que tout ça, c'est une gabegie.
Mais là, c'est des kits fourniture, c'est pas de l'argent. C'est, on leur oui. donne des cahiers, des stylos.
Oui, mais c'est la même chose, c'est le même principe. C'est une déresponsabilisation qui n'est plus à l'ordre du jour compte tenu de l'abîme. Des déficits et des endettements, y compris les collectivités locales. Donc il faut serrer la vis, c'est une évidence.
Et la se débrouiller avec le
la position du maire de Saint-Denis est grotesque. Et c'est un clientélisme, et seulement un clientélisme, qui peut guider des décisions aussi irrationnelles.
Donc là, aujourd'hui, il faut rester sur les Flora.
C'est l'extrême droite qui montre son vrai visage, c'est-à-dire s'en prendre aux plus vulnérables. La première décision du maire de Carpentras, ça a été de supprimer les financements du planning familial, donc d'empêcher les femmes de pouvoir notamment avorter. Bah, la première décision du maire d'extrême droite, Éric Ciotti, de Nice, c'est de s'en prendre aux enfants. C'est vrai que les enfants dans ce pays vont tellement bien qu'on est premier du classement PISA dans l'éducation nationale. Non, c'est une blague, on est les derniers. On a reçu Natacha Polony au GG l'autre jour qui nous disait « Le meilleur étudiant en maths de France est moins bon que le dernier étudiant en maths au Japon. Mais » Mais ne remédions pas à ça dans un monde ultra concurrentiel avec l'intelligence artificielle.
Quel est le rapport avec le stylo?
Le rapport, c'est qu'un enfant des classes populaires qui n'a pas le bon matériel, il va beaucoup plus décrocher en classe, il va être beaucoup moins performant.
Ça fait pleurer encore dans les chaumières.
Il va être beaucoup moins performant. Et le rapport, c'est que si on veut avoir des bons élèves, il faut bien les équiper. C'est aussi simple que ça, je crois que c'est évident.
Charles.
Bah, y a déjà l'allocation de rentrée scolaire, qui est à 427 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 450 euros pour les enfants de 11 à 14 ans, 466 euros pour les jeunes de 15 à 18 ans. C'est peut-être déjà pas mal. Moi, je pense d'ailleurs qu'il faut supprimer l'allocation de rentrée scolaire.
D'autant que la Coupe du Monde étant passée, on n'a plus besoin d'écran plat.
Donc, je suis favorable tout à fait à cette proposition, enfin, même à cette mesure prise par Éric Ciotti à Nice. Je pense qu'il a pleinement raison et je pense que il faut qu'on sorte effectivement de cette logique dans laquelle les gens finissent par ne plus rien payer. Parce que si les gens ne payent plus rien, d'abord, c'est plus la peine de les payer. C'est pour ça aussi qu'on garde des salaires bas, puisqu'on dit aux gens, bah, de toute façon, l'État-providence va tout payer. À quoi ça sert de vous payer? Puisqu'on va vous payer une partie de votre logement, on va vous payer les fournitures de vos enfants, on va vous payer aussi la cantine, on va vous payer vos transports, on va vous payer votre hôpital, on va bien sûr payer l'école, etc. Bientôt, on paiera aussi les vacances. Vous allez voir que de fil en aiguille, on va se retrouver à distribuer des allocations pour que les gens fassent leurs courses. Et on sera définitivement en Union soviétique. Donc, je suis désolé, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de démagogie là-dedans, beaucoup de clientélisme de la part des maires qui font ça. Et je pense d'ailleurs, effectivement, à M. Bagayoko qui, lui, veut, bien sûr, mettre les finances de sa ville par terre.
Ouais, mais la population niçoise, enfin, la population de Nice et la population de la Seine-Saint-Denis ou de Saint-Denis n'est pas la même. C'est peut-être plus justifié. Mais
non, je ne pense pas. Et tu verras qu'au bout du mandat de M. Bagayoko, les finances de Saint-Denis seront dans un tel état que la ville sera obligée de se placer sous tutelle de l'État pour se redresser, vu comme il est parti. Donc moi, je pense que c'est ce qui nous tue, tout ça, en réalité. Je pense que cette généralisation d'échecs, des allocations, de la prise en charge par l'État, par la collectivité, de tous les aspects de la vie des gens, c'est ce qui finit par détruire ce pays. Donc je soutiens cette mesure de Ciotti.
Laura.
Mais là, on parle de 20 euros par élève. C'est beaucoup à l'échelle d'une collectivité, évidemment. C'est pas ce que je remets en question.
Alors, famille,
c'est
peu.
Ce que je dis, c'est que 20 euros pour avoir un peu de matériel scolaire pour les enfants qui en ont
Les parents qui
Charles donnait les montants des allocations. Il a raison, mais il y a 15% des Français qui n'ont même pas à manger jusqu'à la fin du mois en France aujourd'hui.
C'est de la démagogie, Flora.
Non, c'est pas de la démagogie. C'est des chiffres,
sérieux,
c'est des chiffres
qui
publics
écoutent, croient plus à
qui
tout
sont
ça.
Sortis cette année. Mais c'est pas. En fait, Emmanuel, peut-être que toi, t'es dans ton monde imaginaire. Des Devilliers où tout est beau, tout est rose et on va à la brocante acheter des chiens en cristal. Les gens, ils sont
absolument,
dans un monde
je confirme,
où
il est là,
non seulement et il est très joli, je reconnais.
Il est en cristal.
Les gens, beaucoup de gens, pas tous, heureusement, beaucoup de personnes sont dans un monde où aller choisir les stylos, les crayons, et c'est un effort qui fait qu'ils se privent de plein d'autres choses.
Ils font des enfants, donc, Flora, quand on fait des enfants, on assume aussi d'élever ses enfants. Enfin, il y a déjà 500 balles par enfant d'allocation son entrée scolaire. On se fout de la gueule
oui,
de qui.
Oui, il faut leur acheter des vêtements, il faut leur acheter un cartable. Le... Bah voilà, donc il faut leur acheter. Oui, voilà. Mais il faut nourrir
donc
quand on a des enfants, Charles. Il faut les nourrir et les vêtir.
Donc c'est l'État qui paye les vêtements des enfants.
Non, l'État il paye le fait que le travail paye pas assez. Il paye le fait que avec la concurrence internationale et une inflation pas possible.
Pourquoi le travail paye pas assez? Peut-être parce que l'État prend trop de pognon sur le salaire des gens. Voilà. Peut-être. Pure suggestion.
Bon, on n'est pas du tout d'accord sur la
mais
réponse.
Mais tu vois bien que ce système débile ne marche pas. Tu vois bien que les Français s'appauvrissent. On a ce système plus que partout ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on s'est enrichi depuis 10 ans ou est-ce qu'on s'est appauvri? On s'est appauvri collectivement avec ce système. Ça ne fonctionne pas, ce truc.
Les Français
ça a été éprouvé dans l'histoire.
Ils veulent tourner le dos au socialisme, de t'en déplaise, cher Flora.
Mais là, en ce qui concerne les familles, c'est vrai qu'on est quand même en droit de se demander, quand tu vas dans un supermarché et que tu vas aujourd'hui en plus dans des magasins qui sont ultra discount, tu dois quand même pouvoir, sur ton budget, même si tu es une famille, ne serait-ce qu'au SMIC, tu dois pouvoir arriver à distraire et même faire dans tes achats, pour tes enfants, la priorité des fournitures scolaires. Enfin, un lot de 4 crayons de couleur, ça vaut 1,50€. Tu vois, 5 cahiers, c'est pareil. Et ça dure l'année. Et même si tu perds, tu vas pouvoir arriver à retrouver 1,50€ pour acheter des stylos. Quoi,
je ne sais pas d'ailleurs si ça existe encore. Et
puis il y a les promos dans les supermarchés.
Quand j'étais enfant, les profs avaient en plus des exigences en matière de fournitures scolaires qui étaient délirantes. C'est-à-dire, il fallait un cahier comme ci, pas comme ça.
Si t'avais pas la bonne interligne, tu prenais une ligne,
et pas des carreaux ou pas des lignes, il fallait un feu de ceci, un crayon cela, etc. Ça, j'espère que, je ne sais pas si ça existe encore, nos auditeurs vont nous le dire. Si ça existe encore, il faut arrêter ça, je veux dire, il faut avoir chacun.
Il y a moins d'exigences et de demandes
bien sûr,
de fourniture.
De quoi t'as besoin? T'as besoin d'un cahier, d'un stylo, basta. Il n'y a pas besoin de 5000 trucs très 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 précis comme le demandent les professeurs.
Donc aujourd'hui en début d'année, c'est vrai que Charles a raison, c'est aussi aux parents d'assumer, de se dire ben voilà, c'est le début d'année, ou même là pendant les vacances, moi je suis rentré dans des supermarchés, il y avait déjà les fournitures scolaires, tu sais, avec des appels, promos. Ouais, des promos en disant ben profitez-en, c'est maintenant, etc. Donc comme tu le dis, quand il y a des enfants, ben on les assume. Tiens, on a Hicham qui veut intervenir dans les GG. Hicham qui est dans le Val d'Oise. Bonjour Hicham, bienvenue. Tiens, si vous pouviez me le mettre en direct, parce que j'ai un petit souci d'écran. Bonjour Hicham.
Ça va les
Gigi? Ouais, ça va très bien Hicham. Alors dites-moi, est-ce que c'est au mairie de fournir ou pas alors?
Alors, il y a deux cas de figure. On a une mairie socialiste et une mairie de droite, voire d'extrême droite. Là, pour le coup, moi, ce que je comprends pas, c'est là, on parle du futur. On a tendance à dire à chaque fois, l'éducation nationale, la santé et le régalien, ce sont les trois axes qui font une république. Là, on parle de 440 000 euros dans le budget d'une métropole comme Nice. Du pipi-chat, excusez-moi du terme. Et donc là, on parle d'éduquer des nouvelles générations. Si ces nouvelles générations, elles n'ont pas le peu de matériel pour travailler, alors je ne dis pas, peut-être qu'ils ont des allocations, peut-être que... mais il y a des familles où ils sont 4, 5, 6 enfants. Je vous entendais dire tout à l'heure, Monsieur Marchal, dans ta petite bourse, tu dois avoir les moyens d'acheter pour 1,50€. Ouais, mais quand vous êtes 5, 6 enfants et que tu vois que le loyer, il est à 900 balles ou 900 balles, je suis mignon, et quand tu vois qu'après, il faut faire le plein à 2,50€, quand tu vois que les mutuelles ont augmenté, quand tu vois, en fait, la vie, elle a augmenté, la vie des Français, le train de vie de la vie des Français a augmenté, mais pas parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'il y a des frais fixes, en fait. Mais avant, avec 1000 euros, avec 1000 euros, tu pouvais faire plein de trucs. Aujourd'hui, avec 1000 euros, tu as payé ton loyer et basta cosy. Après, il y a des charges. Et donc, du coup, si on arrive à les aider un tout petit peu, regardez ce que fait. Alors, peut-être que ça va faire hurler Charles Consigny, mais regardez ce qui se passe outre-Atlantique. Monsieur Mamdani, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça fait un an qu'il
est maire de New York.
Ça fait un an qu'il est maire de New York. Les problèmes des gens, c'est pas parce que les gens, ils sont pauvres, en fait. Ils ont besoin qu'on les aide. Si vous aidez les gens pauvres, vous les sortez de la précarité, vous les sortez de la violence, des agressions, de tout. En fait, c'est un cercle vicieux.
Mais bien sûr, donc, d'ailleurs, ça marche en France.
Mais
ça marche très bien.
Humour,
ça fait 30 ans qu'on fait ça. Qu'est-ce que ça marche bien?
Votre humour un peu narquois, je l'aime bien. C'est urticant, c'est sympa et tout. Mais là, on parle de sujets sérieux. On parle de l'éducation de nos enfants. Non, mais alors, que ça marche ou que ça marche pas, pourquoi? Il y a un truc qu'il faut qu'on fasse, Charles. On dit, écoutez, on va donner à ces enfants les fournitures scolaires et on peut faire aussi un donnant-donnant, dire à ses enfants, je veux qu'il y ait des résultats à la fin de l'année. Je veux, ouais, on peut mettre, ouais, une dynamique.
Ça,
on peut
mettre ça, des talents. D'ailleurs, c'est quand même ce qui est demandé en début d'année à chaque élève. Ça, d'avoir des résultats ou de bien travailler, ouais, en classe. Et quand vous arrivez, quand vous arrivez en début d'année, on espère que tous les élèves vont bien travailler en classe. Mais Hicham, ouais, je comprends ce que vous dites au niveau des frais fixes. Mais en disant, bah, il y a le loyer, il y a l'essence, il y a l'inflation, tout ça, ça a augmenté et on le subit. Là-dessus, on est d'accord. Mais dans le budget, il y a des priorités. Et les priorités, voilà, justement, quand on a payé
c'est l'école.
Ben oui, mais dans ces cas-là, on budgète en fonction.
Oui,
on budgète
en fonction. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Là, vous parlez de quel budget? Vous parlez du budget des familles ou des budgets des municipalités?
Non, non, je parle des budgets des familles.
Ah, moi,
donner à ce moment-là, faire en sorte d'acheter des crayons et des stylos à ses enfants, et ben on met un petit peu de côté, on essaie de se débrouiller, même si on sait.
Je suis d'accord avec vous, monsieur Marshall, la génération des années 90, des années 2000, et celle d'aujourd'hui, elle n'est plus la même. Aujourd'hui, chaque enfant veut un iPhone, chaque enfant fait son abonnement, chaque enfant veut les mêmes baskets.
On n'est pas obligé d'acheter, de racheter des Nike ou quoi que ce soit aussi.
Je sais, ça je l'entends, mais quand on parle de 20 euros par élève dans une municipalité pour qu'il puisse avoir accès à du matériel, pour avoir un peu de...
Oui, mais c'est ces mêmes municipalités, ensuite, les familles, vous voyez, vous parliez des dépenses fixes tout à l'heure. Si l'année suivante, les impôts locaux augmentent, eh ben on va dire, attendez, pourquoi ça a augmenté? Eh ben, ça a augmenté parce que on a été obligé de fournir aux familles, etc.
Tout ça, monsieur Marshall, il y a des conseils municipaux, on s'assoit, on dit les choses, on dit, bon, vous avez fait les fournitures scolaires, et pourquoi ça a augmenté, mais ça, en fait, ça se fait après. Moi, ce qui me gêne à chaque fois, c'est de monter des polémiques sur des sujets qui sont hyper importants je vois pas l'issue à part taper sur la gauche de Bali Bakayoko, encore faire du beurre sur Bali Bakayoko, et ouais, derrière
en parler encore après son emploi à la RATP.
On veut monter la polémique pour rien, en fait. Les enfants, ils ont le droit d'avoir des fournitures scolaires.
Alors attendez, Hicham, si vous le permettez, attendez, parce qu'il y a Emmanuel qui veut vous dire un mot, et puis ensuite on écoutera Alan.
Hicham, on vous connaît, on entend vos points de vue toujours subtils et exprimés de manière convaincante, mais comprenez aussi quand même, au-delà de ce que vous venez de dire, que c'est un signal de déresponsabilisation qui est très grave, d'engager les enfants dans une prise en charge. La vie, c'est pas ça, vous le savez bien, vous avez bourlingué, vous avez brûlé votre boss. La vie, il faut s'assumer. Alors,
Hicham, on a Alan qui est chauffeur VTC, qui veut intervenir lui aussi, il nous appelle de Loire-Atlantique. Bonjour Alan.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Alan, dans ce débat, alors?
Alors moi, en fait, j'habite une commune de Loire-Atlantique, dans la périphérie nantaise. Et donc, ça fait 10 ans que j'habite dans cette commune. Et en fait, nous, on ne paye pas les fournitures scolaires.
D'accord.
On ne paye pas les fournitures de la rentrée.
C'est-à-dire vous ne payez pas quoi, alors?
C'est-à-dire qu'à la rentrée, les enfants arrivent avec un cartable.
Il y a le cartable et dedans, il y a les cahiers, les stylos, et tout ça, c'est fourni par la municipalité.
Nous, on amène le cartable à la rentrée, et puis les enfants, en fait, on leur donne, ils ont une trousse vide, et puis on leur donne des stylos, cahiers, etc.
Donc, moi, la première année, j'étais assez surpris.
Honnêtement, la première année, j'étais assez surpris, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi on n'avait pas de liste de fournitures. Quand mon fils est rentré en CP, donc il y a 10 ans, j'avais pas compris pourquoi on payait pas les fournitures, et puis après on a pris cette habitude là mais du coup
c'est une municipalité de quelle étiquette, du coup?
Sans étiquette.
OK.
Sans étiquette. Donc après c'est même pas non plus une question de moyens ou autre, parce qu'on n'a pas de...
Mais moi je suis désolé, avec toutes ces mairies qui donnent des fournitures, pourquoi on a encore l'allocation de rentrée scolaire? Je suis désolé, je comprends pas.
C'est 20 euros les fournitures. C'est pas non plus quelque chose d'excessif. Il y a des personnes, par exemple, qui sont dans les écoles où mes enfants sont, et donc pas forcément à la rentrée scolaire.
Oui, mais alors les économies, on va les faire où?
Et on nous explique que c'est 20 euros par enfant, mais on donne 500 balles.
Oui, mais c'est une question de municipalité. Après, c'est la municipalité, c'est un choix local. Donc après, c'est une petite commune de 10 000 habitants.
Ouais.
Et je sais que moi, il y a des communes comme Saint-Nazaire aussi qui fournissent les fournitures. Donc après, c'est pas une question de moyens.
Saint-Nazaire, c'est une ville communiste.
C'est une question de... Comment ?
Saint-Nazaire, c'est une ville communiste, historiquement.
Alan, on va voir ce qu'en pensent ceux qui nous suivent, justement, et je vous remercie Alan, ainsi qu'Hicham, d'avoir été avec nous dans cette discussion. On a posé la question. Est-ce qu'Éric Ciotti a raison de dire stop à la gratuité des fournitures scolaires? Mais vous êtes d'accord avec le maire de Nice, d'accord? À plus de 88% stop à la gratuité des fournitures scolaires. Dans un instant, justement, on va s'intéresser à Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis. Parce que Hicham dit, mais c'est encore un moyen de taper sur Bali Bagayoko. Et là, c'est le canard enchaîné qui revient sur ce prétendu emploi fictif à la RATP avec l'association assez anti-corruption qui a déposé une plainte contre X auprès du parquet national financier. Alors, est-ce que Bali Bagayoko a effectivement bénéficié de mensuétude et d'un emploi fictif à la RATP? Ou est-ce que c'est, comme le disait Hicham, de l'acharnement contre le nouveau maire de Saint-Denis qui bénéficie du soutien de sa famille politique, notamment des communistes et de la France insoumise? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules. Il est 9h20.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Comme Alan et Hicham, vous avez le 32-16 à votre disposition pour réagir avec nous. Bien sûr, on reprend les bonnes habitudes, le direct est là. Tout à l'heure à 10h, on reviendra sur une piste qui est évoquée par le journal du dimanche. Ce serait que le gouvernement taxe les retraités, les meilleures retraites. Il y a un budget qui arrive, il faut trouver des sous. Alors vous savez, c'est la fameuse année blanche, c'est-à-dire on désindexerait de l'inflation pour faire un peu des économies. Est-ce que c'est aux retraités à mettre la main à la poche? On en parlera tout à l'heure à 10h. Tiens, puisqu'on parle argent, on va revenir sur l'affaire qui tourne encore autour du maire de Saint-Denis, Monsieur Bali Bagayoko. C'est le canard enchaîné qui a révélé cette histoire. Bali Bagayoko au cœur de la polémique sur un prétendu emploi fictif à la RATP. L'association AC Anticorruption a déposé une plainte contre X pour soupçon de détournement de fonds publics et d'emploi fictif. Elle a été adressée au parquet national financier. Alors en fait, l'article du canard enchaîné dont vous avez pas mal entendu parler s'appelle le ticket gagnant de Bali Bagayoko. Le canard enchaîné affirme qu'avant de conquérir la mairie de Saint-Denis, il avait cumulé mandat local et poste de cadre à la RATP. Il parlait même un moment de recrutement sans concours ni entretien en 2000, d'horaires aménagés, d'horaires élastiques, je cite, et de généreuses indemnités. Le cumul de deux emplois publics à temps plein est prohibé, sauf autorisation expresse et motivée, c'est ce que rappelle l'association anticorruption. Alors, le canard enchaîné rappelle que en 2015, le maire de Saint-Denis avait perdu son mandat départemental de conseiller municipal de la ville, qui était dirigé par le Parti communiste. Le Parti communiste, c'est sa famille politique. Et à ce moment-là, on lui a accordé une hausse de 102% de ses indemnités d'adjoint, qui complétait son salaire de cadre, qui dépassera ensuite les 6 000 euros par mois, en intégrant le 13e mois et les primes. Bali Bagayoko se défend dans une tribune qu'il a publiée sur les réseaux sociaux. Il dénonce des campagnes incessantes à son encontre. Il se dit victime aussi de la part des médias. Depuis que j'ai été élu, dit-il, on a cessé de m'associer à des trafiquants de drogue. On a cessé aussi de s'en prendre à moi. C'était du racisme. Mais à aucun moment, dans ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux, il ne parle justement de cette question. Alors, est-ce qu'effectivement il y a un souci? Est-ce qu'il y a eu un emploi fictif ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? Ou c'est de l'acharnement contre Bali Bagayoko? 32-16 pour en discuter avec les chiens et avec les grandes gueules.
Bah, plusieurs considérations. C'est contrasté évidemment parce que Monsieur Bagayoko est un très bon communicant. Il vient du monde du basketball. Il est dynamique. Il est sympathique. Il est en phase avec son électorat dans sa mairie. On le voit quand il rencontre les concitoyens.
C'est y faire. Il est très bon.
Mais en même temps, il a pris des positions extravagantes qui sont allées dans des excès les uns après les autres. Ça a commencé avec le refus d'afficher le portrait du président de la République, qui est quand même quelque chose d'anormal quand on a la République à la bouche tout matin, midi et soir. Ensuite, pour aller sur l'essentiel, il a laissé entendre assez explicitement que si les élections ne lui convenaient pas en termes de résultats pour la présidentielle, il faudrait aller vers une forme de révolte, de sédition, de résistance, là aussi anti-républicaine. Donc évidemment, quand on prend des positions aussi caricaturales et aussi agressives, lorsqu'on prête le flanc à une critique factuelle, en particulier sur sa situation professionnelle, on en prend plein la gueule. Or, il faut savoir qu'effectivement, dans le privé, on peut pas cumuler comme ça des emplois à temps plein. On est contrôlé. Là, ce qu'il a fait, ça paraît être un bricolage absolument tendancieux. La RATP, avec les prix des tickets qui augmentent, n'est pas là pour payer des faux cadres qui viennent en plus faire du communisme dans la vie politique.
Ça, c'est l'enquête, c'est alors, l'enquête qui c'est le dit.
C'est pas compliqué. Si on résume, monsieur Bagayoko est un communiste, il vient du communisme. Le communisme, c'est un cancer dans le monde parce que c'est la dictature. Et dans le communisme, ce qu'il fait là, c'est-à-dire des avantages indus sur le dos du peuple, oui, là, ça s'appelle la nomenclatura. Oui, donc monsieur Bagayoko est un homme de la nomenclatura.
Là, on ne sait pas. Là, c'est une information qui est sortie par le Canard enchaîné. On verra si la plainte aboutit, s'il y a une enquête du parquet national financier pour déterminer s'il y a eu emploi fictif ou non. Charles Consigny.
Alors, je lis ce qu'il en est sur ce cumul d'emplois par M. Bagayoko. Le Canard enchaîné, qui n'est pas Valeurs Actuelles, aux dernières nouvelles, qui n'est pas un torchon d'extrême droite que certains voudraient pointer, fait état d'un recrutement sans concours ni entretien, d'horaires élastiques et de généreuses indemnités. Donc ça, c'est pour la RATP. On sera content d'avoir des métros qui ne roulent pas et une boîte gérée avec les pieds pour payer à des gens des généreuses indemnités avec des horaires élastiques, le tout sans concours ni entretien. C'est très intéressant. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que quand il a perdu en 2015 son mandat d'élu départemental, le conseil municipal de la ville, qui était dirigé par le Parti communiste, lui a accordé une hausse de 102% de ses indemnités d'adjoint.
Ces petits arrangements entre amis.
De quoi compléter un salaire de cadre qui dépassera ensuite les 6000 euros par mois. Donc, on a l'impression, en tout cas, à ce stade de ces informations, d'une espèce de double micmac, c'est-à-dire micmac à la RATP pour un job dont on perçoit pas bien encore les concours, et micmac au conseil municipal pour compenser financièrement. Non, pour compenser financièrement la perte de son job, de son job au conseil départemental. Donc c'est la ville qui a compensé. Voilà. Je pense que ça pose question. Ça pose question. Et monsieur Bagayoko n'est pas intouchable parce qu'il serait victime de racisme ou de je ne sais quel traitement personnalisé. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est quasiment séditieux, qui décroche le portrait du président de la République dans son bureau, qui est, je suis désolé, il est quand
oui,
même
qui a été élu.
Particulier.
Oui, mais qui a été élu.
Très bien.
Alors, par 13 500 personnes sur 100 000 électeurs, mais il a été élu.
Je trouve que quand on attend.
Il applique la politique pour laquelle il a été élu. Alors, lui dit qu'il est victime d'une cabale aujourd'hui de la part de l'ancienne municipalité, notamment de l'équipe de Mathieu Hanotin.
Quand tu es sur le quai. Quand tu es sur le quai du métro de la ligne 8. Et que tu attends ton putain de métro sur la ligne 8 et qu'il n'y en a pas avant 5-6 minutes, ce qui est inhabituel à Paris, que quand il arrive, il est tellement rempli que tu ne peux pas monter dedans, que tu dois attendre le suivant, que tu finis par arriver en retard, etc. Moi, je suis désolé, t'as envie que cette boîte, la RATP, soit gérée au cordeau et pas qu'elle serve de planque effectivement à des apparatchiks qui ont des relations dans les syndicats, etc. Je suis désolé, j'attends impatiemment les résultats de cette enquête. Oui.
On verra si le parquet financier
s'en saisit ou pas.
Fait preuve de célérité, parce que parfois on l'a connu plus prompte et plus rapide à déclencher des enquêtes.
Bon, là on est au mois d'août, mais on verra.
Qu'est-ce que tu en penses, Flora Guebali?
Je pense que vous avez un rapport à la présomption d'innocence assez rigolo. Parce que quand c'est pour un violeur ou un pédocriminel, il est présumé innocent. On ne peut pas affirmer qu'il ait violé des enfants, puisqu'il y a la présomption d'innocence. Mais c'est très bien, parce que ça s'appelle l'état de droit. Mais quand il s'agit du maire de Saint-Denis, alors que je ne porte pas haut en estime, puisque comme vous le savez, LFI, ce n'est pas exactement mes copains, Bali Bagayoko, alors là, il est coupable, il a tort, c'est un communiste, c'est un dictateur, a dit.
Non, je n'ai pas employé ce mot-là. Non.
Le communisme était une dictature.
Le cancer du monde.
Il appartenait à la nomenclature.
On a entendu.
Des avantages sur le dos du petit peuple.
Le cancer du monde.
On sait pas.
Donc, je ne sais absolument pas. Il y a une plainte qui a été déposée par une association qui fait de l'anticorruption. C'est très bien que ces associations-là fassent leur travail. Est-ce que c'est un coup? Parce que on sait très bien qu'en Seine-Saint-Denis, la politique, elle est très mafieuse. Est-ce que c'est des ennemis internes qui essayent
de le déstabiliser? l'Élysée.
Et avec
c'est
des
ce
ennemis. Et en Seine-Saint-Denis et à gauche, pour le coup, je l'ai vu, avec des amis pareils, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Donc certainement que les pires ennemis de Bagayoko, ils sont dans son camp en train d'essayer de le faire tomber. Donc ça, ce serait pas nouveau. Surtout, c'est connu que dans ce territoire-là, la politique est très mafieuse et tout le monde essaye de se faire tomber. Donc pour l'instant, on peut pas dire avec certitude que c'est un corrompu et qu'il doit tomber.
Mais personne n'a dit avec certitude. J'ai dit qu'on attendait impatiemment les résultats de l'enquête.
C'est probablement, même si c'est borderline, globalement légal, mais simplement, ça illustre le fait de ce que je dis.
Par ailleurs, alors malheureusement, on est dans une société politique tellement polarisée que Bali Bagayoko, il cherche bien ce qui lui arrive à faire des polémiques tous les quatre matins et à dire des choses odieuses pour la République tous les quatre matins. Mais on peut pas non plus nier le fait qu'il y a un acharnement contre lui parce qu'il incarne tout ce que les gens comme toi détestent. Il est noir, il a un nom à consonance étrangère. Non, mais en fait, à un moment,
tu peux pas dire à Emmanuel qu'il déteste les Noirs. Tu viens dire qu'il incarne tout ce que les gens comme toi détestent.
Et moi,
les gens comme Emmanuel.
Les gens conservateurs, réactionnaires.
Ça n'a rien à voir avec le fait que je respecte son élection. J'ai commencé mon propos tout à l'heure par dire qu'il avait du talent. C'était une personnalité tout à fait éminente. Mais simplement là, il est pris dans le fait ce que je dis, faites pas ce que je fais, et évidemment tout de suite.
Qui n'est pas prouvé pour le moment, puisqu'il y a un signalement auprès du parquet national financier.
On voit bien qu'il y a eu un arrangement, comme l'a dit Charles, très très favorable, de manière un peu illégitime.
On a Dan qui va en parler avec nous. Il nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Il veut réagir. Dan, il est chauffeur poids lourd. Bonjour Dan.
C'est très important. Oui, bonjour.
Bonjour Dan. Je vous en prie, mettez-vous bien près du téléphone. Qu'est-ce que vous en dites? C'est de l'acharnement contre Bali Bagayoko ou pas alors?
Oui, exactement. C'est complètement de l'acharnement pour moi.
Pourquoi?
Je pense que c'est dû à sa personne, à sa couleur, à l'endroit d'où il vient, à d'où il vient. C'est comme, alors je sais pas exactement qui parlait, mais qui disait qu'il était communiste, etc., etc. Mais ça n'a rien à voir pour le coup. C'est encore une preuve que vous faites une fixette sur qui il est, d'où il vient, et pas sur ce qu'il fait. Alors, imaginons qu'il y a eu des détournements.
Non, c'est le contraire là.
Mais là, on parle pas de détournement.
C'est pas d'où il vient et qui il est. Ce sont des faits qui sont mis en cause.
Oui, mais vous faites attention à d'où il vient et qui il est.
Mais non. C'est trop facile ça. C'est pas parce qu'on est noir qu'on a le droit d'avoir des emplois fictifs. Je suis désolé.
Allez-y, Dan.
Non. C'est exactement ce que vous faites.
Mais non, personne n'a dit ça.
À chaque fois, c'est pareil. Il y a un autre qui a dit, il a été élu par 13 500 personnes.
Mais c'est la réalité.
Oui, c'est la réalité. Macron, il a été élu par combien de personnes?
Il a été élu 57.
Il est légitime. Il est légitime. Pourquoi, lui, vous ne lui donnez pas
de temps? Non, c'est pas ça.
À chaque fois qu'il y a un truc, vous dites que... Enfin, j'ai l'impression qu'on s'acharne sur le gars parce qu'il a... réussi à avoir la mairie de Saint-Denis.
Mais pas du tout. Moi, ce que je souhaite à Bali Bagayoko, c'est qu'il réussisse à Saint-Denis et que les Dionysiens soient plus heureux à la fin de son mandat. C'est pas la question. Aujourd'hui, si vous voulez, d'ailleurs, dans sa réponse, Bali Bagayoko, ce qu'il dit, c'est qu'il a de l'acharnement. Il rappelle toutes les attaques qu'il a subies. Mais dans le communiqué qu'il a fait, notamment sur les réseaux sociaux, à aucun moment, il ne répond sur le fond, d'ailleurs. Vous voyez, il ne parle pas de l'affaire. Qu'il y ait, comme l'a rappelé Flora, un petit règlement de compte aussi, parce que du côté du Parti Socialiste, on ne supporte pas d'avoir perdu la mairie de Saint-Denis, et qu'on ait des dossiers, c'est possible, hein, c'est le monde politique, il est violent, et on n'aime pas perdre. Donc, c'est une chose d'ailleurs. Il y a une autre vidéo de Bali Bagayoko où on le voit en train de déchirer des cartes du Parti Socialiste, et où il dit, voyez, ça y est, on est en train de changer d'époque, ça continue, de plus en plus de gens nous rejoignent. Donc, il y a certainement, des règlements de compte, mais ici il n'y a pas d'acharnement. On reprend simplement ce que dit le canard enchaîné, mais Alain, prenez la parole avec les grandes gueules et répondez sur le fond.
Dan a raison dans la mesure où il y a...
Attendez, allez-y Dan, pardon.
Vous pouvez admettre quand même que depuis que ce mec-là a été élu, il y a énormément... Enfin, on n'entend parler que de lui. On dirait que c'est lui le président aujourd'hui.
Voilà.
On n'entend parler que de ce mec.
Je vais donner un exemple très concret.
Je suis de Rennes, je ne suis pas de chez lui. Hein. mais j'entends parler que de lui.
Mais il fait des provocations
en permanence. Oui, mais alors, juste
refuser d'afficher le portrait du président de la République.
Vous avez entièrement raison, parce que dans la ville juste à côté de Saint-Denis, Clichy, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi une affaire en cours sur potentiellement des fausses procurations qui auraient été faites pendant la campagne. L'opposante du maire, qui est un LR, essaye de faire annuler l'élection. Bref, il se passe quelque chose. Dans les communes de France, il se passe des choses partout. Il y en a plein des histoires comparables. Pourquoi c'est Bali Bagayoko qui défraye la chronique et pas le maire de Clichy, dont d'ailleurs j'ai oublié le nom, un LR, qui est juste à côté, il se passe quelque chose aussi. Bah voilà, c'est pourquoi on met autant d'attention sur ce maire-là.
Parce que Bagayoko est beaucoup plus médiatique
comme une autre.
Et a fait des provocations bien plus marquées. C'est une personnalité beaucoup plus spéciale.
Allez-y Dan, pardon.
Il le déteste et puis c'est tout. C'est ce qu'il représente qui est détesté et qui fait qu'on va chercher la moindre petite bête, la moindre petite chose pour essayer de le descendre, pour essayer le discréditer. Discréditer, exactement.
Vous faites erreur parce que pour ce qui me concerne, je trouve que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Qui a de la dignité aussi, il est toujours impeccable dans sa présentation, mais en l'occurrence, malheureusement, il y a un problème administratif.
Allez-y, Dan.
Vous dites ça, mais d'un autre côté, c'est parce que tous les médias, en particulier, puisque on est obligé de suivre les médias pour suivre Bali Bagayoko au final. Mais vous dites ça, mais au final, ce qu'on met en avant, c'est toujours un côté mauvais, un côté sombre, un côté.
Non, pas du tout. Souvenez-vous, à une époque, au Parti Socialiste, le nombre de cadres du PS qui étaient employés dans des associations, dans des mutuelles, d'autres salaires, etc. Et si vous voulez, au Parti communiste, on avait peut-être à ce moment-là, ça s'appelle du copinage. On rend service, on dit tiens, le copain ou le camarade, il est dans la mouise, on va augmenter ses indemnités, etc. Ça, c'est la politique, c'est des petites magouilles entre amis, ça a toujours existé et ça existera toujours. La seule chose, effectivement, tu as raison Charles, la seule chose, c'est quand vous êtes élu pour dire le temps de la probité est venu de tourner la page avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir, il faut regarder si vous-même, vous étiez dans la probité et dans l'honnêteté. C'est uniquement ça, et on verra ce que dit l'enquête du parquet national financier.
C'est recasage à la Cour des comptes.
C'est pas un crime de sens qui lui est reproché. Il y a un problème administratif. Mais faut quand même relativiser parce qu'on parle pas de montant extraordinaire. Il a bénéficié d'un arrangement. C'est pas non plus l'accusé de drame, de choses inadmissibles. Incroyable.
Merci Dan, merci d'avoir été avec nous. À bientôt pour de nouvelles discussions et on verra ce que devient cette affaire, si le parquet national financier s'en saisit ou pas. Dans un instant, on s'en fout pas, avec la polémique autour d'un nouveau pavillon pour l'Assemblée nationale pour pouvoir accueillir le public. Un parc d'attractions Dragon Ball Z financé par l'Arabie Saoudite et 37% des Français qui utilisent l'IA, l'intelligence artificielle, pour draguer. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Reste avec les grandes gueules, Flora Guebali, Charles Consigny et Emmanuel Devilliers. Nous sommes en direct à la radio, c'était RMC. À la télé, c'était RMC Story, le canal 23 de la TNT. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules qui vous attendent au 32-16, comme Dan, comme Alan, comme Hicham qui était avec nous tout à l'heure. Aujourd'hui dans les GG, nous sommes avec Flora Guebali, l'entrepreneur de la transition écologique. Nous sommes avec Charles Consigny, l'avocat, et le chef d'entreprise Emmanuel Devilliers. Tout à l'heure à 10h, la piste du gouvernement pour faire des économies dans son budget, peut-être regarder du côté des retraités, des retraites les plus aisées et les désindexer de l'inflation. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous venez en parler avec nous au 32-16. En attendant, c'est l'heure du On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
C'est le retour aussi de Louis Gerbier. Bonjour mon cher Louis.
Bonjour, salut les GG, bonjour à tous. Un nouveau pavillon de l'Assemblée pour plus de 50 millions d'euros. Rien que ça, Emmanuel, on s'en fout, on s'en fout pas?
On s'en fout pas.
Flora?
On s'en fout pas.
Et Charles ?
On ne s'en fout pas.
Le 18 juillet, le Conseil de Paris a rendu un avis favorable à la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7e arrondissement afin de rendre juridiquement possible la réalisation d'un nouveau pavillon de l'Assemblée nationale. On va écouter l'association qui des sites et des monuments qui s'oppose à cela.
Au cœur de l'été, alors qu'on croyait le projet abandonné, l'Assemblée nationale remet sur le tapis son projet délirant de construction d'un pavillon d'accueil à 50 millions d'euros. Exit le petit bâtiment de 1888 parfaitement intégré. Place au bloc de verre et d'acier, aussi incongru qu'inadapté au réchauffement climatique. En période de disette budgétaire, l'Assemblée n'a-t-elle pas mieux à faire que de dépenser de l'argent public pour défigurer un site historique ?
Alors Emmanuel,
s'en fout pas. Je comprends pas, comme tous les observateurs, la légitimité de ce bâtiment monumental qui est coûteux. Et pour être bref, je n'ose imaginer que l'architecte des bâtiments de France, dont on attend l'avis impatiemment, puisse émettre un avis favorable à ce projet.
Moi aussi, je suis très impatient d'avoir l'avis.
Non, mais il y a beaucoup de bâtiments récents dont on se demande, en passant devant, comment on a pu construire une mocheté pareille, en général, dans un très beau cadre. C'est souvent qu'on enlaidit des beaux bâtiments anciens pour mettre des trucs immondes qui, en plus, s'avère en général pas étanche, s'écroule sur eux-mêmes, etc., etc. Et là, on est typiquement dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on s'apprête à construire un truc d'une laideur sans nom, alors qu'il y a effectivement déjà un petit bâtiment qui s'intègre parfaitement à l'ensemble. Pourquoi ? Parce que Madame Braun-Pivet veut sa pyramide du Louvre, c'est tout. On est face à l'ego individuel de Madame Braun-Pivet, qui se prend pour un jour pour Simone Veil, le lendemain pour Mitterrand, et qui là veut avoir son pavillon Braun-Pivet, si tu veux. Elle veut laisser une trace dans l'histoire. Et donc, non, il faut dire non.
J'ai signé
la pétition, je l'ai partagée. Je pense qu'on en a assez de ces égos de gens qui sont, s'imaginent aussi présidentiables. Figurez-vous, j'ai vu ça ce matin. Il faut vraiment redescendre. Il faut que tous ces gens redescendent. Ils n'ont pas le niveau des fonctions qu'ils occupent. Il faut qu'ils en prennent conscience. Je pense que les Français leur ont suffisamment dit depuis 10 ans. Ils ont envie de les dégager. Et ça fait partie du genre de mesures qu'ils prennent et d'idées idiotes qu'ils ont, qui donnent envie aux Français de les dégager. Donc qu'ils arrêtent leurs conneries. Il faut vraiment arrêter les conneries. Moi, je pense que si ce projet finit par se faire, il faudra faire des sittings sur le chantier pour empêcher qu'il se fasse. Parce que ce serait vraiment une espèce de verrue. Ce serait vraiment une erreur.
Ce qui est étonnant, c'est que le 18 juillet dernier, le Conseil de Paris a rendu un avis favorable à la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7e arrondissement. Donc, ce qui était impossible là-dedans est devenu possible pour la réalisation des travaux. Donc tu dis, c'est curieux, alors
le
que ça
Conseil
paraît tellement...
Le Conseil de Paris, ils ont détruit Paris.
Donc, est-ce que c'est un petit côté arrangement entre amis aussi, tu vois, copinage? Mais c'est vrai que le bâtiment lui-même, tel qu'ils veulent le construire, est assez moche, Flora.
Oui, moi, très simplement, j'ai vu l'image 3D et c'est horrible. Et il faut savoir où est-ce qu'on est à l'Assemblée nationale. C'est la plus belle place de Paris et la plus symbolique, c'est la place de la Concorde. C'est les lieux qui incarnent la Révolution française, l'époque des romantiques où tout se négociait sur la création des républiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. La politique moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est construite sur ces places-là, sur ces endroits-là. Donc le symbole de Paris, pour moi, c'est cette place de la Concorde, le pont, l'Assemblée nationale. Et donc on va mettre cette horreur à cet endroit-là, c'est pas possible en fait. Non, moi je suis d'accord que c'est très moche et qu'il faut
s'y opposer par tous les moyens.
Et puis ce qui est génial,
c'est que le centre-ville de Paris soit
les
magnifique.
Travaux, si jamais ils ont lieu, c'est puisé dans les fonds de la réserve de l'Assemblée nationale, puis, 50
c'est
millions
c'est
d'euros.
Ce qui est génial, parce que en matière de travaux, là aussi, ce qui est annoncé à 50 millions d'euros finit toujours à 200 millions d'euros. Hein, vous pouvez faire largement x3. Et davantage. Ensuite, Madame Braun-Pivet, je l'ai entendu, elle dit que les images 3D ne correspondent pas à ce que ce sera. Bon, ça va quand même être une chiotte en verre innommable. Et deux, que les gens critiquent ce projet parce qu'ils ne le comprennent pas.
Oui. Voilà. Non, mais en fait,
donc ce sont les Français,
c'est un pavillon
les
de relations publiques pour faire des coquilles
qui sont débiles.
des cocktails.
Non, c'est pour accueillir le public.
Et s'auto-glorifier.
C'est pour accueillir le public. Elle veut, si tu veux, cette dame règne sur son petit machin, là. Elle a son petit royaume de l'Assemblée nationale. Et elle souhaite désormais accueillir le Manant. Et donc, ça lui plairait qu'il rentre par une belle salle. C'est ça qu'elle veut.
Règne sur son petit machin. C'est le troisième personnage de l'État. Et c'est l'Assemblée nationale.
Oui, bah, il faut qu'elle dégonfle sa baudruche.
Allez, on enchaîne.
Non, non, le respect. Quand elle dit que c'est pris dans les réserves,
ça, c'est pour faire croire que c'est gratuit. C'est un peu comme la formule, c'est pas cher, c'est l'État qui paye.
Louis,
un parc dédié à Dragon Ball est financé par l'Arabie Saoudite. Aucune réaction en plateau, je crois qu'il y a
et
peu
c'est
de...
mes enfants, Dragon Ball Z.
Donc un parc dédié à Dragon Ball et financé par l'Arabie Saoudite pourrait ouvrir ses portes sur l'ancien site du premier parc à thème français, Mirapolis. Mais le président du Puy du Fou s'en offusque. On s'en fout, on s'en fout pas, Flora.
Et on s'en fout pas.
On s'en fout, franchement.
Et Emmanuel.
On s'en fout pas.
Ouais, mais j'imagine, puisqu'on va écouter donc le président du Puy du Fou, Nicolas Devilliers, sur le sujet.
Accessoirement, mon neveu.
France, un nouveau site de loisirs qui peut sortir de terre avec l'appui de l'État qui visiblement se mobilise. Eh bien, je regrette simplement que ce ne soit pas un projet français. En France, il y a toutes les compétences pour proposer un projet de loisirs qui soit un projet français. Ce qui me gêne, c'est le fait que nous allions chercher un thème japonais. On voit bien que l'Arabie Saoudite, elle a une stratégie culturelle et il ne faut pas prendre les Saoudiens pour des imbéciles. En investissant sur le sol français, eh bien, leur objectif, c'est l'influence.
Alors, pourquoi t'en fous pas, Emmanuel ?
Ben, c'est ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire une démarche culturelle qui apparaît anodine, mais qui, en fait, permet de véhiculer des messages. Bon, je relativiserai quand même la position de mon neveu est légitime en tant que directeur du Puy du Fou, puisque, évidemment, c'est une concurrence un peu déloyale avec des fonds colossaux qui arrivent de l'étranger. Forcément, quand on est entrepreneur français, on est surpris et décontenancé. Mirapolis, c'est aussi un échec à l'origine, avant le grand parc du Puy du Fou, que j'ai moi-même dirigé, après des premiers pas difficiles aussi au Puy du Fou, de 89 à 90. Et c'est une conceptrice qui nous avait aidé, donc il y a une sensibilité sur le site de Mirapolis, parce que il y a un peu une consubstantialité entre le grand parc du Puy du Fou et l'ancien Mirapolis. Mais de toute façon, il y a loin de la coupe aux lèvres, parce qu'il suffit pas d'avoir un carnet de chèques pour réussir dans les parcs. C'est très compliqué.
Après,
il faut un ticket d'entrée, il faut une offre, et pour rentabiliser un parc avec son seuil de rentabilité, mais je dis bon courage.
D'après ce qui est dit, c'est nos confrères du Figaro qui le révèlent. Mmh. C'est géré au plus haut niveau de l'État. C'est-à-dire qu'on gère d'État à État l'implantation éventuelle de ce parc Dragon Ball Z qui serait autour de l'univers du manga. Ce que dit Nicolas Devilliers, dit on a une culture française. On ferait mieux encore d'installer un parc qui glorifie la culture française. Pourquoi pas les Mousquetaires ou D'Artagnan comme on a fait Obélix plutôt que la génération manga.
J'ajoute simplement un mot. Suite à ta précision tout à fait factuelle, je ne vois pas la viabilité de ce parc, parce qu'un parc, il faut des foules considérables, il faut de la revisite, il faut un prix d'entrée qui soit légitime, et ce concept de parc n'est pas valide.
Florin.
Oui, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a un enjeu de soft power quand un pays étranger ouvre un parc. Qu'il soit investisseur dans un parc qui est un groupement économique avec des investisseurs français, étrangers, un gestionnaire français... Pourquoi pas que là, ce soit un peu leur parc d'attractions, ça pose quand même question, puisqu'on voit bien à quel point les Américains utilisent ça, le soft power, comme arme culturelle. Que ce soit Disney, qui est quand même le lieu, je crois, sous ton contrôle, le plus visité d'Europe.
Absolument.
Qui est chez nous. Alors, ça nous apporte beaucoup de rayonnement économique, tant mieux, parce qu'il y a toute l'Europe et voire le monde entier qui vient.
Mais c'est pas l'État américain, Disney. Hein. Mais c'est des fonds privés, des
accords dérogatoires.
C'est quand même un savoir. Donc, que tout ça, qu'on ait la main pour dire venez investir, mais ça s'en sert dans un groupement économique, oui. Que ce soit leur projet, leur bébé, non.
Voilà, merci Louis pour le on s'en fout, on s'en fout pas. On mettra l'intelligence artificielle pour draguer, on le mettra à demain, puisque le chrono est terminé.
On aurait voulu la vie de Charles.
L'Assemblée nationale et le. la volonté, c'est le pavillon de Madame Brompivet a attiré beaucoup les arguments. Dans un instant, le gouvernement réfléchit à taxer les retraités. Si l'on en croit le JDD, les retraités sont dans le viseur. C'est le principe d'une désindexation des retraites à partir d'un certain niveau. Faut trouver de l'argent, ma bonne dame. 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules. On évoquera aussi les trottinettes, casques et gilets flots qui deviennent obligatoires à Paris et en petite couronne. Est-ce qu'il faut l'étendre? Là encore, vous venez réagir avec les GG, avec les grandes gueules. Nous sommes en direct sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.